Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Chers auditeurs de la web radio du Rage, voix de jeunes, bonjour. Heureux de vous rencontrer une autre fois dans un nouveau numéro de l'émission L'invité de la semaine. Pour aborder toujours une question et un sujet d'actualité. Et cette fois-ci, on a choisi d'aborder une question très importante, c'est la liberté de la presse. La liberté de la presse, c'est l'un des fondements d'un État de droit et d'un État démocratique. Et on sait les considérer comme un quatrième pouvoir. Effectivement, détenir des médias, c'est détenir l'opinion. Et détenir l'opinion, c'est détenir le pouvoir. Donc, pour aborder cette question cruciale d'actualité, nous avons l'honneur aujourd'hui d'inviter M. Redouane Boujmaha, qui est un journaliste et professeur à la faculté des sciences de l'information et de communication à l'Université d'Alger. Bonjour M. Redouane Boujmaha et merci d'avoir répondu à notre invitation.
Enfin, bonjour. Salam alaikum. Azouf Laoun. Je suis doublement honoré par cette invitation, honoré par l'invitation d'une radio libre, chose qui devient de plus en plus rare dans le monde en fait actuel, un monde compliqué, détenu, qui est entre des mains de gens irresponsables liés au capital barbare. Et je suis honoré en même temps parce que je suis l'invité d'une radio de jeunes. Dans un pays où les jeunes sont souvent les victimes des politiques et qui sont rarement dans les cercles de décision.
Eh bien, merci, l'honneur est partagé. Donc, on commence notre entretien. Récemment, il y a le Reporters sans frontières a rendu public son rapport annuel sur les classements des pays dans le monde sur la question de la liberté de la presse. Et l'Algérie occupe la 129e place. L'année passée, si je ne me trompe pas, elle était la place 119. Donc, il y a quand même un recul. Donc, ma question, ça veut dire, est-ce que déjà ce classement reflète la réalité? Et aussi, j'aimerais bien savoir, ça veut dire quels sont les facteurs ça veut dire les critères de ce classement.
Ok, je pense, nous en tant qu'Algériens, on n'a pas besoin ni des rapports de RSF, ni des rapports de X ou de Y pour bien clarifier les choses en matière de l'état de la presse, enfin, et de l'état des libertés en général dans ce pays. Bien sûr, le rapport d'RSF obéit à des critères. Ce sont des critères bien classifiés à travers des questionnaires destinés à quelques journalistes, à quelques universitaires dans chaque pays, etc. Donc, c'est une série de critères liés à une database, à une base de données, etc., pour classifier les choses. Mais ce qui est sûr, les critères d'emprisonnement, par exemple, des journalistes figurent dans ce critère, par exemple. Un des critères. Le critère en fait d'indépendance éditoriale des journalistes figure aussi dans ce critère. Rapport pouvoir exécutif et pouvoir exécutif, législation par rapport aux libertés, etc. Ce sont des critères parmi d'autres en rapport avec cette situation. Je pense que en fait l'état de la presse en Algérie, c'est difficile de le couper, de le distinguer de l'état des libertés en général. Hein? La chose qu'il faut toujours mettre en considération, c'est qu'on ne peut pas en fait parler de liberté de la presse si on ne parle pas des libertés des citoyens et d'un état de droit et de citoyenneté tout court. Un citoyen, c'est quelqu'un qui a des droits, mais pour qu'il exige le respect de ses droits, il doit faire ses devoirs, il doit rendre en compte devant la loi sur quelques éléments liés à la philosophie de la citoyenneté. Donc on ne peut pas demander une liberté aux journalistes si on cautionne l'oppression des libertés pour les autres citoyens sous prétexte idéologique ou dogmatique ou quoi que ce soit. Donc, l'état de la presse en Algérie, donc...
C'est l'image de la, la situation politique.
C'est l'image de la situation politique. C'est à l'image aussi d'une dérive grave depuis janvier 92. Mmh. On ne peut pas occulter cette réalité.
Justement, ça veut dire, si on prend la situation, moi, ça veut dire surtout des gens qui sont de l'extérieur, quand ils regardent l'Algérie de loin, il y a quand même plus de 150 titres, il y a plusieurs chaînes de télévision privées, on peut parler du président de la République, on peut parler des généraux, on peut parler des scandales, voilà, donc il y a une façade, soi-disant, on dit qu'il y a la liberté de la presse. Donc, ouais, il y a des gens qui parlent ici. En Algérie, ils disent qu'il n'y a pas la liberté de la presse, mais il y a la liberté de parler. Mais il y a la liberté de parler, mais il y a la liberté de parler. Mais il y a la liberté de parler, mais sans que cela puisse avoir un impact sur le terrain.
Puisque vous parlez un peu arabe, je pense qu'il y a un mot encore plus précis. Et je m'excuse pour l'utilisation de ce mot, mais dans ce pays, il y a hurriyet nubah, même pas hurriyet kalam. Hein. Donc on peut le citoyen, enfin le journaliste, peut avoir, mais il n'y a pas de liberté d'expression. Liberté d'expression, c'est l'organisation des débats publics sur la chose publique, sur la gestion des affaires publiques. C'est ça le débat. Hein. Donc, un pays où la législation ne permet pas, par exemple, ne donne pas le droit d'accès aux sources d'information, le droit d'accès à l'information, une législation qui ne condamne pas, qui ne pénalise pas les agents publics, qui ferme devant les journalistes le droit d'accès aux sources d'information, on ne peut pas parler de liberté. Donc, 150 titres, c'est un des éléments d'un phénomène extraordinaire de sous-développement du journalisme en Algérie. C'est un des éléments aussi d'une organisation, d'une stratégie d'organisation de la clochardisation du métier de journaliste et de la scène médiatique en fait. Sur 150 journaux, il faut le dire qu'il n'y a pas plus de 8 à 9 quotidiens qui ont, sur le plan de la sociologie de lecture, de sociologie du public, un public avec quelques éléments de compréhension de ce public. Les autres, c'était des titres fondés par des réseaux, comme les autres titres d'ailleurs, par des réseaux constituant le pouvoir en place pour organiser la fuite des capitaux, pour organiser la fuite et pour organiser le bradage de la publicité publique de l'ANEP.
Oui, justement, donc, ça veut dire il y a 150 titres, mais il y a le monopole de l'État, tout d'abord du côté législatif jusqu'à présent. Donc, il y a un vide juridique, il y a des lois, mais il n'y a pas des décrets d'application de ces lois. En même temps, il y a la pression que le monopole, par le biais de l'ANEP, donc la publicité, et aussi les imprimeries, donc c'est une manière pour contrôler la presse algérienne et les journaux d'une manière précise.
On ne peut pas en fait parler de liberté de la presse si on ne parle pas du système médiatique en lui-même. C'est un système médiatique construit essentiellement sur le clientélisme et la rente publicitaire. C'est pour cela, entre autres, il y a des lois. Toutes les lois ont changé. Si on veut aujourd'hui, en fait, essayer de simplifier, de faire la synthèse, comme le font beaucoup de confrères, de faire les raccourcis sur le système en la personne de Bouteflika. Moi, personnellement, en tant qu'universitaire, je ne m'inscris pas dans les guerres de personnes. Je pense qu'il y a une crise de tout le système politique. C'est-à-dire changer Bouteflika avec une autre personne ou personnalité, j'en sais rien, ou une autre classe politique, ça ne changerait rien à la donne. Est-ce qu'il y a une volonté de changer le système? Pas les personnes au sein du système. C'est un système qui fonctionne sur le clientélisme et sur la rente publicitaire. Depuis 1999, il y a eu changement des lois et beaucoup de lois, etc.
C'est l'application qui
On est toujours sur le vide suivant. Il y a un vide juridique. Il n'y a pas de loi sur la publicité. Il y avait un projet de loi sur la publicité qui a été stoppé au niveau de la deuxième chambre. Et depuis, on n'en a rien vu. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, depuis des dizaines d'années, il n'y a pas de loi sur la publicité. La publicité est toujours gérée par des lignes téléphoniques, des réseaux qui constituent le système en place.
Okay.
C'est pour cela que, en fait, parlant de la publicité, la majorité ou la totalité même des éditeurs de presse ne contestent pas le fait qu'il n'y ait pas, au fait, de loi sur la publicité. On ne les entend pas du tout.
Parce qu'ils négocient ça dans l'opacité.
Parce qu'il y a un système opaque qui constitue une clientèle et qui distribue, en fait, et qui donne les placards publicitaires pour les uns et les autres. Quand ça marche, très bien. Quand ça applaudit, on leur donne. Quand ça cesse d'applaudir, on freine. C'est pour cela qu'il faut être sérieux. Il y a beaucoup d'éditeurs de presse pendant des décennies. On ne les a jamais entendus parler d'oppression ou de restrictions sur la liberté de la presse. Quand il y a eu le fameux décret, par exemple, arrêté interministériel entre le ministère de la Communication, le ministère de l'Information à l'époque, le ministère de l'Intérieur sur la gestion de l'information sécuritaire. Des éditeurs de presse avaient accepté à l'époque, en contrepartie, ils ont eu des pages et des pages et des pages de publicité, des milliards et des milliards de dinars de publicité, malgré qu'ils ont eu, en fait, une feuille de route pour appliquer une ligne éditoriale, pour appliquer une feuille de route sur la manière de gérer l'information sécuritaire. Donc, ça a donné ce que ça a donné sur le plan médiatique, mais on a eu quand même une guerre atroce contre les civils, dont les journalistes faisaient partie, et dont le journaliste était victime et acteur, malheureusement, et dont les éditeurs de presse étaient des alliés de cette politique sécuritaire.
Très bien. Donc, vous avez cité deux parties. Vous avez cité les pouvoirs publics et les éditeurs.
Oui.
Donc, il y a aussi une autre. Donc, ils sont responsables, effectivement, de la situation que vit aujourd'hui, que traverse l'Algérie concernant la liberté de la presse. Mais il y a une partie importante qui est les journalistes. Et aujourd'hui, on trouve les journalistes. Il n'y a pas vraiment. Ça veut dire une organisation. Il n'y a pas un syndicat qui incarne la lutte pour la liberté de la presse, qui défend les droits des journalistes. Donc, qu'en est-il de cette organisation? Pourquoi il n'y avait pas un mouvement, un syndicat des journalistes qui représente les journalistes? On assiste à des emprisonnements, des arrestations, des intimidations, des fermetures des journaux, même des chaînes de télévision, peu importe si on est d'accord ou non. Mais voilà, il y a l'absence de ce mouvement syndical.
Enfin, le mouvement syndical journalistique a été lui aussi détruit par des politiques du système en place. Donc on est passé d'un MJA qui était même pluriel à travers sa composante, c'est-à-dire il y avait toutes les tendances presque de la gauche au sein du MJA à un certain moment, et même des autres tendances, mais essentiellement la tendance lourde était la tendance de la gauche dont toute sa diversité, hein, de l'extrême gauche aux journalistes les plus staliniens de la gauche. Après le MJA, il y avait l'histoire de la JIA avec tout ce qui s'est passé, l'association des journalistes algériens. Et après, on est passé vers le SNJ et vers cette fameuse ligue des journalistes, etc., assez proche d'eux. Depuis 92, en fait, il y a eu un repositionnement. Le pouvoir en place avait pris la décision d'arrêter le processus démocratique, d'imposer une feuille de route. Il a eu le soutien de quelques éditeurs de presse sous prétexte de faire la guerre contre l'intégrisme et sauver la République et j'en sais rien, hein, tous ces arguments.
En contrepartie, ils ont des pages publicitaires.
En contrepartie, les éditeurs de presse se sont enrichis.
Oui.
Et en contrepartie, les journalistes étaient malheureusement au sein d'une machination pour pousser le travail journalistique vers plus de propagande et vers un minimum professionnel. Et on est aujourd'hui, on paye aujourd'hui cette politique. Donc, il y a eu un certain moment, même les éditeurs, parce qu'ils appartenaient à des réseaux différents et des fois contradictoires au sein du pouvoir. Entre, je me souviens, le fameux feuilleton 98, entre la presse proche de Bechin et la presse proche d'autres réseaux qui étaient des protagonistes au réseau de Bechin, etc. Tout ce feuilleton d'été de 98. Donc il y a eu une initiative en 94 pour former l'association des éditeurs, pour être, pour faire en fait barrage et affronter cette fameuse directive liée à la NEP sous le gouvernement Belaïd Abdeslam. Et juste après, avec la démission de Belaïd Abdeslam, il y avait, ils ont mis fin, en fait, à Belaïd Abdeslam, enfin, à la responsabilité de Belaïd Abdeslam. Quand on a mis fin aux fonctions de Belaïd Abdeslam à la tête du gouvernement, il y a eu d'autres enjeux. Au sein du pouvoir. Donc, le SNJ, aujourd'hui, il n'est pas malheureusement représenté. Pourquoi, en fait, il n'y a pas un engouement syndical au sein de la corporation journalistique? Tout simplement parce qu'il y a de nouvelles générations de journalistes au sein des corporations qui sont plus pris par la gestion de leur carrière et souvent qui sont piégés par la précarité sociale. Il y a des journalistes qui ont à peine 3 000 ou 4 000 dinars plus que le SMIC comme salaire mensuel. Et donc, on ne peut pas parler ni de syndicalisme, ni de liberté dans la précarité.
Oui, donc on peut lier ça, là vous êtes enseignant à l'université, donc on peut lier ça à la formation au sein de l'université des journalistes. Donc on peut dire qu'il n'y a pas vraiment une volonté de former des journalistes, ça veut dire à base de l'éthique et de la déontologie journalistique, d'assurer une bonne formation aux citoyens. Donc qu'en est-il déjà de la formation des journalistes dans les établissements algériens?
L'état de la formation, en fait, en Algérie, c'est un état lié aussi à la faillite du système universitaire. Donc, on ne peut pas faire, en fait, le constat d'échec pour tout le système et essayer de faire exception au système universitaire. Donc, le système universitaire, il est malheureusement au cœur de cette faillite nationale aujourd'hui, une faillite d'absence d'horizon, d'absence de stratégie, d'absence de philosophie de formation. Qu'est-ce qu'on veut former et qu'est-ce qu'on veut faire de l'université en général ? Hein, et on va y revenir pour l'histoire de la formation des journalistes. Donc déjà, la formation tout court universitaire aujourd'hui pose problème. On veut quelle université? On veut quelle formation universitaire? Pour quel projet? On veut former quel citoyen? On veut fonder et construire quel État? Je pense qu'on est au cœur de la problématique. Le système universitaire aujourd'hui, il incarne davantage cet état de panne nationale lié à l'absence de stratégie pour produire et reproduire des élites universitaires dans un projet national. Aujourd'hui, je suis désolé de le dire, et je ne suis pas là pour saper le moral des jeunes, mais il y a une panne nationale. Il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de projet. C'est un état sans projet. C'est un État contre la nation. Il n'y a pas de projet.
Ok, donc c'est l'université-là. Donc on parle de la gestion du flux. Donc il n'y a pas effectivement une vision de, ça veut dire à long terme, même à moyen terme.
Il n'y a pas de vision claire, en fait. Il y a des visions bureaucratiques qu'on trouve à travers quelques textes, quelques canevas d'offres de formation, etc., etc. Mais ce sont des procédés bureaucratiques qui ne sont pas liés à un projet national. Parce que le projet national est absent. On veut faire quoi au juste de cet État? On veut construire quel État? On veut l'Algérie dans 20 ans, on veut la voir comment? Et l'université dans 20 ans, on veut la voir comment? Donc parlons de la formation des journalistes à travers l'université. À certains moments, on s'est posé la question, est-ce qu'on veut former des journalistes ou on veut former des académiciens en journalisme? Hein, c'est deux choses deux choses différentes. La deuxième problématique pour la formation des journalistes, la formation des journalistes à travers l'université, la formation des journalistes à travers l'université n'est pas là, en fait, pour donner tout le parcours de la formation, parce que le journaliste, même s'il active, il est appelé à faire des formations en continu. Même les grands journalistes dans les démocraties les plus développées sont appelés souvent à faire des formations en continu pour essayer d'améliorer leur savoir-faire technique, leur savoir-faire professionnel, etc. Parce que ça se développe. C'est-à-dire, même si on parle aujourd'hui de journalisme online, par exemple, il y a aujourd'hui, même à travers l'éthique journalistique, une violation aujourd'hui à un principe des chartes journalistiques, c'est la nécessité de séparer l'information de la publicité. Or, la manière d'exercer le journalisme online ne nous permet pas de faire cette séparation. On est dans des stratégies commerciales des moteurs de recherche, à travers la relation entre presse online et moteurs de recherche. Les moteurs de recherche nous imposent, en tant que journalistes online par exemple, à choisir les mots qui peuvent être attrapés, les mieux référencés pour être mieux vus sur les moteurs de recherche. Et ça pose une problématique déontologique très sérieuse par rapport aux relations entre la publicité et l'information, entre publicitaire et métier de journaliste. Donc, on est appelé à faire de la formation continue. Et sur ce plan, je pense que les entreprises médiatiques algériennes publiques, et d'ailleurs, on peut parler des médias publics si vous le voulez, parce que ça doit s'imposer aussi comme débat. Toutes les entreprises médiatiques dans le monde investissent beaucoup sur la formation continue de leurs journalistes. Chose qui ne se fait pas malheureusement dans ce pays.
Effectivement, donc là, ça nous pousse aussi à parler d'un sujet qui a coulé beaucoup d'encre ces derniers jours. C'est la question de rachat du journal Khabar par Rabab. Donc, quelle lecture faites-vous sur cette question, donc, autant que spécialiste, autant que journaliste, autant qu'enseignant sur.
D'abord, il y a deux éléments importants. Il y a une affaire en justice.
Oui.
Entre un ministère, et entre le ministère de la communication, la direction d'El Khabar et la société qui a racheté, je pense, 95% des actions de ce journal. Donc, ça, c'est le côté juridique. Cette plainte, elle a été déposée sur la base d'une interprétation de l'article 25 en question. Bon, l'article 25 par rapport à la personnalité morale, au physique, etc., pour le rachat d'un deuxième média, etc. Hein? C'est un article qui a été fait pour, normalement, éviter la concentration des médias. Ce qu'on comprend en lisant cet article. Deuxième facteur du problème, aujourd'hui cette question est devenue politiquement très politique. Donc, l'affaire démontre la liaison entre les réseaux des médias en relation avec les réseaux qui constituent le pouvoir en place. Il y a une guéguerre par médias interposés. C'est une guéguerre qui nous rappelle la guerre du fameux feuilleton de 98 qui a été orchestré par des réseaux liés au pouvoir contre la personne de Bechin et de Zerouane. Donc le fameux feuilleton d'été qui résumait à l'époque une certaine crise profonde
au sein du pouvoir,
hein, pour être plus précis, et qui... Cette guerre, nous a amené à vivre deux ans de violence physique, parce qu'il y avait beaucoup de violence, et de violence symbolique extraordinaire. Aujourd'hui, on vit ces jours-ci cette violence. Et la scène médiatique est dispatchée.
Ceux qui soutiennent...
Entre des comités de soutien à Green, des comités de soutien à Rabab et aux éditeurs d'El Khabar. il y a des absents. Aujourd'hui, il y a trois acteurs, principaux acteurs liés aux médias qui sont absents à travers l'espace. Un média, c'est un public. Le public est absent dans le débat. C'est le premier acteur absent. Et ça démontre aussi un certain monologue des éditeurs de presse, parce que le média, le public, c'est un détail pour une bonne partie de ces gens. Pour le pouvoir politique en place, ce pouvoir, et quand je parle de pouvoir, je ne parle pas de personne, hein, c'est un système. Ce système aussi, pour lui, le citoyen, est un détail et un bétail. Hein. Donc, le plus grand absent, c'est le public. Hein. C'est, on ne parle pas du public en relation avec le droit du citoyen à l'information, c'est un droit constitutionnel. Le deuxième acteur absent, c'est le journaliste. On ne parle pas de l'avenir des journalistes d'Al-Khabar et l'avenir des journalistes qui vont changer de tutelle, qui vont changer de propriétaire. On va partir de propriétaires anciens journalistes qui sont devenus éditeurs vers une propriété du capital.
D'un patron.
D'un patron. Mm. Hein? Donc, on ne parle pas de ça. Hein? C'est le deuxième acteur important dont on ne parle pas. L'absence de débat sur le métier de journaliste et sur le syndicat. Une telle opération, dans un pays normal, dans un état de droit, où, c'est quoi l'état de droit ? Où le pouvoir de la loi doit s'appliquer sur les gouvernants et les gouvernés. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas eu de débat, il n'y a jusqu'à maintenant aucun débat, ni syndical, ni au sein de la corporation, sur ligne éditoriale. La clause de conscience en relation avec les hommes d'affaires et les médias, la manière de faire le journalisme, la ligne éditoriale, est-ce qu'elle va changer, elle ne va pas changer, les limites du financement d'un journal et de la propriété d'un journal et les limites de la propriété intellectuelle du journaliste, on ne parle pas de ça. Et ça démontre qu'il y a une volonté de biaiser le débat et d'imposer un faux débat entre patron, éditeur et pouvoir exécutif. Le vrai débat, c'est le métier de journaliste, la liberté de la presse. Est-ce que la presse sera plus libre avec ses nouveaux propriétaires ou moins libres? Est-ce que le citoyen aura droit à plus de droits de l'information sous le patronat ou non? Donc, c'est le vrai débat. Ce sont
justement,
des débats.
C'était la question que j'allais poser. Ça veut dire, dans ce processus, on constate qu'il y a beaucoup de patrons qui s'accaparent, qui souhaitent avoir des médias, soit télévision, journaux. Donc, est-ce que la liberté de la presse n'est pas menacée, ça veut dire, à travers ces privatisations? Donc,
La liberté de la presse, partout dans le monde, pas seulement en Algérie, est toujours menacée s'il n'y a pas de lutte citoyenne pour la défendre et la préserver. Tous les patrons, tous les pouvoirs sur la planète, y compris le pouvoir américain, qui est un des pouvoirs les plus soi-disant ouverts et démocratiques, liés au marché, etc. Même Obama en lui-même, il espère un jour avoir une presse docile. Hein. Mais ce sont les luttes citoyennes, les luttes de la société civile, les luttes syndicales journalistiques qui peuvent défendre la liberté ou non. Et sur ce plan, je pense qu'il y a un débat qu'on ne veut jamais imposer. Il faut aujourd'hui imposer le débat sur les aides de l'État à la presse et sur l'état de la presse et des médias publics dans ce pays. Les aides de l'État à la presse de 1990 à 2016 doivent être publiées. Le citoyen a le droit de savoir qui a pris quoi et pour quel cahier de charge. Deuxièmement, le citoyen a le droit aujourd'hui d'exiger des médias publics qui font dans le service public et qui ne font pas dans la promotion des personnes au pouvoir ou en dehors du pouvoir. Un média public n'est pas là pour faire la promotion politique pour X, Y ou Z classe politique. Un média public, il est là pour faire le service public. Un média public qui est financé par le contribuable. La société civile, le citoyen, a droit d'exiger des comptes.
Oui, même justement la question des médias publics, elle est très importante. Elle appartient à tout le peuple, à tous les citoyens ont le droit de s'exprimer dans ces espaces. Donc, vous avez parlé des acteurs, parmi les acteurs, les citoyens. Donc, dans ce contexte, on constate que le citoyen n'a pas accès déjà à l'information et aussi ses préoccupations, ses attentes ne sont pas prises en charge dans les médias, ça veut dire sa voix n'est pas écoutée. Donc, je pose la question, ça veut dire qu'en moyen d'alternative aux médias qui existent maintenant, soit le privé ou l'État, donc le privé cherche uniquement ses intérêts, donc comme média alternative aujourd'hui, donc les réseaux sociaux, des médias libres et tout. Donc, les perspectives en Algérie concernant les médias alternatifs.
Je pense que le citoyen, non seulement il n'a pas d'accès à l'information aujourd'hui, mais le citoyen est victime de campagnes de désinformation et de propagande. Et à travers l'exercice journalistique dans ce pays, on insulte quotidiennement l'intelligence du citoyen. Et par rapport au ce qu'on appelle les médias citoyens, les médias alternatifs, c'est toujours bon d'avoir des médias sur ce plan. Mais les médias qui occupent le plus l'espace public, c'est toujours ces fameux médias lourds, entre
Lourd.
guillemets, la radio, la télévision, la presse online, etc. Et sur ce plan, je pense qu'il y a un travail à faire pour une société civile qui veut faire son travail de contre-pouvoir sur deux démarches différentes. Elle doit organiser, essayer de construire des médias alternatifs, comme votre association le fait très bien avec Radio Rage. C'est une radio web très intéressante. C'est un espace qu'il faut consolider, qu'il faut encourager, qu'il faut accompagner. Ce sont ce genre d'espaces qui peuvent mettre un peu de pression à travers l'espace public sur les autres médias. Mais en même temps, on ne peut pas démissionner sur l'exigence de demander des comptes et d'amener et de faire pression et d'accompagner les médias dans l'espace public à faire leur travail dans les règles, c'est-à-dire le respect de la loi, le respect des lois, le respect de l'éthique journalistique et surtout le respect du public tout court.
Oui. Bon, nous, tant que radio, là, on est en train déjà sur la toile Internet, mais on souhaite déjà même, on va lutter pour que les ondes hertziennes seront libérées parce qu'il y a le monopole de l'État. Et on souhaite aussi que d'autres associations, que d'autres groupes rejoignent, en mettent en place leur web radio, leur radio.
J'espère qu'ils vont libérer les ondes pour des radios libres et j'espère qu'ils ne vont pas reproduire ce qui se fait aujourd'hui à travers la télévision parce que je l'ai déjà dit depuis 4 ans sur un quotidien algérien. Dès le début des premières chaînes de télévision, j'avais dit la chose suivante et je suis de plus en plus convaincu et davantage convaincu par ce constat que le pouvoir allait préparer une ouverture fermée de l'audiovisuel. On est dedans. Donc, on est en pleine préparation d'une ouverture de chaîne de télévision fermée. C'est-à-dire, on va passer d'un monopole vers un autre
Un
monopole de chaîne de
une
télévision.
autre
Et
forme.
j'espère qu'ils vont pas faire ça aussi pour les radios parce que ça va faire un signe d'une assurance d'une pérennité d'un système qui est là depuis 62, qui a un seul projet. C'est rester, se reproduire et rester au pouvoir. Malgré qu'il sait très bien, on sait très bien aujourd'hui que préserver ce système aujourd'hui est une grave menace pour l'unité de la nation et pour les intérêts suprêmes de la nation. Aujourd'hui, être patriote, c'est être démocrate.
Oui. Bon, on est arrivé à la fin de cette émission. Si vous avez un dernier mot à dire.
Moi, je pense, en fait, c'est pas le dernier mot parce que on va pas baisser les bras et on va pas, en fait, dire ça aux jeunes auditeurs. Je pense que les jeunes doivent s'impliquer davantage. Je comprends le désespoir des jeunes. Je comprends le sentiment des jeunes qui se sentent de plus en plus trahis par des élites politiques, entre guillemets, qui ont marchandé pendant 2 ou 3 décennies avec les différents réseaux du système pour s'accaparer ou pour avoir une partie de la rente à travers leur trahison. Je comprends davantage le manque d'horizon qui pousse beaucoup de jeunes à baisser les bras. Je peux juste dire une chose, la lutte finira par payer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc les jeunes doivent s'organiser d'une manière pacifique pour accompagner ce qu'il y a à accompagner dans le système pour une alternative, parce que je pense qu'il doit y avoir quelques individus au sein du système qui vont se dire un jour, il faut arrêter ça, c'est dangereux pour tout le monde.
On ne peut pas continuer comme ça.
On ne peut pas continuer comme ça, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut se préparer. La meilleure manière en fait de se préparer, de mettre la pression pour un changement qui va préserver la nation, son unité et ses intérêts suprêmes, c'est d'essayer de militer d'une manière pacifique et de se former et d'avoir un agenda clair à travers des formations continues pour changer ce pays.
Effectivement, donc, même nous au sein du RAJ, à chaque fois il y a une citation, on dit « si tu te plains de ton époque, si tu la trouves mauvaise, demande-toi ce que tu as fait pour la rendre meilleure ». Donc que chacun de nous est interpellé de contribuer avec sa pierre pour construire ce mur d'un état de droit, d'un état démocratique. Et la question de la liberté de la presse, c'est toute question liée à la démocratie, aux libertés. Ce n'est pas une question qui concerne uniquement les journalistes ou qui concerne une partie de la société. C'est une question qui concerne toute la société, d'où la nécessité de l'implication de tout le monde et de conjuguer des efforts et de créer des liens et de passerelles de solidarité entre les différentes composantes de la société. Donc merci Monsieur Erdouane Boujma d'avoir accepté notre
invitation. Longue vie à Radio RAJ.
Merci beaucoup. Je l'espère avec vous, avec la contribution de tout le monde, et des amis de l'association et de la liberté et de la démocratie d'une manière générale. Donc chers auditeurs, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci, on vous donne rendez-vous prochainement. Et je remercie aussi mes amis qui assurent le technique, donc en l'occurrence Mohand, Kadé et Sofiane. Merci beaucoup.
Radio RAJ, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.